Interrogez l'urie d'un gars sans oublier de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain sur les rainettes pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je ne vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent les faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, car ici ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse, tout de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge, tu juges, ceux qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage.
Chers auditeurs de La Rage Dedans, bonjour, nous sommes de retour après une certaine absence. Aujourd'hui, j'ai deux invités, Claire et Luc. Claire, bonjour.
Bonjour.
Claire, tu vas... bonjour Luc, pardon.
Bonjour.
Excuse-moi. Claire, tu te présentes, s'il te plaît, à nos auditeurs.
Oui, alors moi je suis Claire Vivès, je suis sociologue et je travaille au Centre d'études de l'emploi et du travail. Et mes travaux portent sur les questions de protection sociale et de services publics de l'emploi.
Luc ?
Bonjour, Luc Sigalo-Santos. Moi, je suis sociologue et politiste, maître de conférence à Aix-Marseille Université et également aussi rattaché au Centre d'études de l'emploi et du travail. Et je travaille sur les questions de politique d'emploi, de chômage notamment.
Voilà. Alors, nous vous invitons aujourd'hui pour l'excellent livre que vous avez produit il y a 2 ans, « Chômeurs, vos papiers ». Pourquoi ce titre ? Alors, j'ai ouï dire que c'était la chanson de Léo Ferré, « Poète, vos papiers », qui a inspiré ce titre ?
Oui, effectivement, c'était un choix de l'un de nos co-auteurs, Vincent Dubois, qui effectivement a trouvé que c'était un titre qui résonnait et qui reflétait un petit peu ce qu'on voulait dire dans cet ouvrage. Donc ça a été choisi, puis une petite note poétique, donc ça nous a plu.
Bien. Claire, est-ce que tu peux avoir l'extrême gentillesse, s'il te plaît, de lire le 4e de couverture pour rentrer dans le vif du sujet de votre excellent ouvrage ?
Oui, bien sûr. Peut-être, juste avant de le faire, je vais signaler que le livre, on l'a écrit à 5, là on est 2, mais ont aussi participé Jean-Marie Pillon, Vincent Dubois et Adrien Cloué. Donc pour la 4e de couverture, qui j'espère va un peu donner une idée de l'ouvrage, donc plus les chômeurs et les chômeuses sont nombreuses, plus ils et elles sont suspectés d'être la cause du chômage. Tel pourrait être le paradoxe des politiques de l'emploi en France comme ailleurs. Que celles-ci prennent les traits américains du workfare ou ceux plus européens de l'activation, l'objectif est le même, pousser les chômeurs à travailler et pour cela, conditionner les allocations à un contrôle de plus en plus strict de leur recherche d'emploi. En replaçant les évolutions du contrôle dans l'histoire longue du chômage, ce livre montre comment son intensification dans la période récente a été pensée, mise en œuvre et justifiée au nom de la redynamisation, entre guillemets, des chômeurs et des chômeuses, au point d'être désormais présentée comme une nouvelle forme d'accompagnement. Cette euphémisation tranche avec la virulence des discours politiques sur le sujet, tout autant qu'elle masque les effets délétères de ce traitement coercitif. Car si le contrôle vise à adapter les comportements des chômeurs et des chômeuses à des exigences institutionnelles, il s'agit aussi de satisfaire celles des entreprises. Mettre la pression sur les chômeurs et les chômeuses, c'est ainsi perpétuer l'ascendant des employeurs dans le rapport de force qui les oppose aux salariés en matière de revenus et de conditions de travail. Aujourd'hui comme hier, la cause des chômeurs et des chômeuses est bien celle des travailleurs et des travailleuses.
Merci Claire. Alors Luc, vous dites dans l'ouvrage que les politiques du chômage ont une histoire et il y a des questions non résolues. Alors, l'histoire des politiques du chômage, quelles sont les dates, les grands événements pour nos auditeurs qui n'auraient pas connaissance de ce domaine particulier, pourtant si courant?
Oui, alors effectivement, le premier point de départ, c'était de dire que ces politiques de contrôle des chômeurs, c'était pas une invention récente qu'on pourrait assimiler assez rapidement à un avatar un peu du néolibéralisme des années 80. Alors, elles se sont accentuées à cette période, mais c'est une histoire qui remonte, qui date, qui est assez ancienne, puisqu'en fait, ce qu'on montre dans le livre, c'est que le contrôle, en fait, est aussi vieux que le chômage lui-même. Il y a des éminents collègues sociologues et économistes qui ont montré que le chômage a été inventé, c'est le terme qui est souvent utilisé à peu près à la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est le moment en fait où on va mettre en place des premières formes d'indemnisation, indemniser ce qu'on appelle à l'époque la privation d'emploi, qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, ce qui signifie notamment que le chômage est assez largement perçu comme involontaire. Et en fait, en gros, pour le dire rapidement, depuis qu'on recense et qu'on indemnise les chômeurs, eh bien en fait, il y a des procédures pour vérifier tout simplement pour vérifier à qui et comment en fait sont versées ces indemnités de chômage. Donc à partir de ce moment-là, dès les premières années du XXe siècle, d'abord les syndicats, puisque ce sont des caisses syndicales à la base qui indemnisent, et puis ensuite les municipalités vont mettre en place des procédures pour vérifier. Alors d'abord, dans les premières décennies du XXe siècle, ça va être de vérifier déjà s'ils sont aptes physiquement à occuper un emploi, mais il y a aussi, c'est assez intéressant, des critères de moralité, de probité. Donc c'est on le lit dans les textes de l'époque, les textes notamment juridiques, donc vérifier qu'il n'y ait pas de penchant pour la boisson, vérifier que les chômeurs n'aient pas de velléité révolutionnaire, bref, que ce sont des citoyens...
Lambda.
Voilà. Par conséquent, voilà, donc ces choses existent, mais bon, assez rapidement, en fait, apparaît donc à la fin, au moment où en fait la guerre première... Première guerre mondiale d'abord et puis ensuite la seconde éclate, ces questions en fait s'éclipsent assez rapidement. puisque c'est pas du tout, hein, y a la grande pauvreté, la guerre qui sont beaucoup plus importantes. Donc en fait, voilà, ça réapparaît dans la période qu'on appelait un peu rapidement de Trente Glorieuses, qui est une période de plein emploi, et on précise de plein emploi masculin quand même, c'est important de le préciser.
Merci.
Voilà. Et en fait, donc c'est intéressant, après je laisserai la parole à Claire, mais c'est une période où le chômage est assez limité, résiduel, et il est souvent, le chômage est souvent lié à des transitions assez courtes entre différents emplois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on ne parle pas de politique d'emploi, mais de politique de main-d'œuvre. Hein, c'est ça le logiciel, disons, d'analyse dans ces années 50. C'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu, la préoccupation des pouvoirs publics, c'est précisément, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de compenser les déséquilibres de travailleurs entre secteurs et entre différents territoires pour harmoniser un petit peu les logiques de main-d'œuvre. Et donc, en fait, le contrôle, à ce moment-là, il existe. Mais en réalité, l'enjeu principal, c'est de vérifier que les gens qui touchent des indemnités, en fait, ne travaillent pas à côté sans le déclarer. Mmh. Donc ce sont vraiment des chômeurs. Et il y a une procédure un peu emblématique de ça qui va naître à la fin des années 60, puisqu'en 1967 est créée l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, un lointain ancêtre de France Travail. Et ce qui est intéressant, donc c'est la procédure du pointage. On va faire venir les gens tous les 15 jours pour qu'ils actualisent, qu'ils prouvent qu'ils sont toujours à la recherche d'un emploi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, c'est bien à l'administration de démontrer l'éventuelle absence de volonté de trouver un emploi. Hein, ce n'est pas du tout au chômeur de se justifier, c'est à l'administration de prouver qu'il y a éventuellement un doute en la matière. Et les choses vont un peu changer dans les années 70, au moment où la conjoncture économique se dégrade, donc on a des chocs pétroliers, le chômage, donc la situation du marché du travail se dégrade, le chômage augmente, on passe à 1 million de chômeurs en 1977, donc c'est un premier cap. Mmh. Qui est franchi. Et ça va dégrader mécaniquement les comptes de l'assurance chômage, puisque en fait, il y a de plus en plus de gens à indemniser, par définition. Et ça va faire, c'est important parce que ça va faire de plus en plus apparaître les chômeurs comme un coût. Un coût pour la société, un coût pour l'assurance chômage, qui est géré donc à partir de 1958 par l'UNEDIC, qui est créé, géré par des syndicats de travailleurs et des organisations patronales au sein de l'UNEDIC, une gestion paritaire. Et donc, cette vision du chômage comme un coût, comme un poids pour la société, ça va donner aussi du poids à des arguments des néolibéraux, des responsables politiques, des économistes notamment, qui à cette époque reprennent de l'importance. Il y a par exemple Raymond Barre qui devient Premier ministre en 1976 et qui va être un Premier ministre très libéral. Et en fait, l'indemnisation du chômage va être de plus en plus présentée non pas comme un droit, on a cotisé, donc on reçoit quelque chose, mais comme quelque chose qu'il faut mériter. Mmh. Et une date un peu emblématique, c'est 1979. La notion de recherche active d'emploi va devenir une contrepartie explicite du versement de l'allocation. Donc maintenant, c'est plus à l'administration de démontrer l'éventuelle absence de trouver un emploi, ça va être au chômeur de devoir se justifier auprès de services de contrôle qui sont créés la même année, en 1979, au sein des directions déconcentrées du ministère du Travail, et donc qui vont commencer à regarder quels sont les comportements de recherche d'emploi. Est-ce que les gens cherchent véritablement un emploi? Les contrôles vont augmenter dans les années 80 et 90. Alors c'est intéressant parce que c'est à la fois des années où le chômage augmente. On passe la barre des 2 millions en 82, la barre des 3 millions en 92, mais c'est aussi intéressant parce que c'est aussi des années où les socialistes sont souvent au pouvoir. Donc en fait, dire que le chômage, le contrôle des chômeurs est quelque chose de droite, c'est pas si vrai finalement historiquement, puisqu'en fait les socialistes ont aussi contribué par des politiques de renforcement des contrôles. Alors ça peut être par exemple pour prouver que les gens sont vraiment des vrais chômeurs, qu'on va augmenter ces contrôles, mais de fait, il y a une politique d'augmentation des contrôles dans les années 80-90.
Alors, Sapin et Valls. Il faut dire les noms des deux ministres qui ont instauré ça.
Alors, effectivement, ça s'est fait une petite accélération dans le temps, mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'en 2009 est créée une nouvelle institution qui s'appelle Pôle emploi, fusion de l'ANPE chargée du placement et des ACEDIC chargés de l'indemnisation. Donc, on les réunit. L'idée de faire un guichet unique, c'était la volonté notamment de Sarkozy, de dire un guichet, ça facilitera, disons, la vie des demandeurs d'emploi. Bref. fusion très contestée à l'époque hein, par les agents, beaucoup de grèves au départ. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Pôle emploi va récupérer la mission de contrôle à ce moment-là, mais elle ne va pas la mettre en œuvre. Pour deux raisons, j'explique très rapidement. La première, c'est que 2008-2009, il y a une grosse crise, hein, la crise des subprimes, qui se traduit en crise aussi économique. Augmentation du nombre de chômage, ce n'est pas du tout la priorité à Pôle emploi de contrôler. La priorité, c'est inscrire les gens et les indemniser. C'est un peu écoper le bateau qui prend l'eau, pour le dire rapidement. Et deuxième chose, pour la deuxième raison pour laquelle il n'y a pas de mise en œuvre du contrôle tout de suite, c'est parce que les agents ne veulent pas le faire. Parce qu'ils disent, en fait, c'est du flicage, on n'en veut pas. Ou alors, pour certains, ça alourdit notre charge de travail, etc. Donc, il faut attendre quelques années. Effectivement, vous avez raison. Michel Sapin, ministre socialiste, qui va, alors non pas impulser, mais cautionner des expérimentations lancées par la Direction Générale de France Travail pour créer des équipes de contrôle dédiées. Et ce sera son successeur, François Rebsamen, donc ministre sous, effectivement, le gouvernement Valls, qui va, lui, alors beaucoup plus, j'ai envie de dire, bruyamment, aller sur les plateaux télé, expliquer que c'est pas normal, qu'il y ait des gens au chômage qui ne cherchent pas de travail, et que donc, il faut vérifier que les gens cherchent bien un travail, et donc, raison pour laquelle on met en place des équipes de contrôleurs dédiées. Donc, c'est vraiment lui qui va épouser cette logique-là. Et je dis juste un dernier mot sur le fait que ça s'inscrit dans un contexte où les chiffres du chômage sont pas bons, qui sont assez loin de la promesse. Hein, vous vous souvenez de la promesse de campagne de François Hollande, inverser la courbe du chômage. On en est loin. Et puis, ça concorde bien, cette vision de Rebsamen, ça concorde bien avec la ligne Manuel Valls, donc ligne sociale libérale. Hein, c'est le moment aussi où Valls va aller faire des déclarations d'amour au MEDEF en expliquant que la France est pro-business, etc., etc. Et voilà, et pour juste conclure là-dessus, pour dire qu'effectivement, ces équipes sont expérimentées, elles vont être généralisées au milieu des années 2010. Au départ, on est à 200 contrôleurs, puis ça va augmenter progressivement avec un nombre de contrôles qui va lui aussi augmenter.
Alors Claire, je voudrais qu'on revienne sur un point très particulier. La fusion entre Pôle emploi et des ACEDIC. On se rend compte que ça ne s'est pas très bien passé et il y a même eu, vous le dites dans votre livre, des conditions de travail proches, toxiques, proches de France Télécom de l'époque.
Oui, alors effectivement, le moment où de la fusion donc entre l'ANPE qui était un établissement public et les ACEDIC, donc une institution paritaire, ça a donné lieu pour les agents à un très grand chamboulement, que ce soit en termes de conditions de travail, mais aussi en termes de culture professionnelle, d'objectifs, enfin de voilà, de philosophie presque du travail. Et en plus, un rapprochement qui s'était fait à l'époque à marche forcée, avec un slogan qui était, c'est à l'époque on était du temps de Sarkozy, et qui était « il faut que celui qui accompagne et celui qui indemnise soient la même personne », avec les grandes images de Sarkozy, de la carotte et du bâton.
Voilà. Je voulais qu'on le dise à l'antenne.
Sauf qu'en fait... c'était deux métiers, et ça reste, à vrai dire, deux métiers complètement différents. Et que ce soit les organisations syndicales qui représentent les agents ou bien les agents eux-mêmes, tout le monde avait prévenu que ce rapprochement n'était pas du tout...
à l'ordre du jour.
Voilà, ne correspondait pas à la réalité. Mais malgré cela, ça s'était fait à marche forcée. Et au final, ce qu'on voit assez vite, c'est que cette idée du conseiller unique est complètement abandonnée. Et donc, on se retrouve avec, d'un côté, des agents qui vont indemniser, d'un autre, des agents qui vont accompagner. Et puisque c'était une préoccupation de l'époque, personne pour contrôler. Et donc, ce qui va être fait à ce moment-là dans Pôle emploi, ça va être de créer ces équipes de contrôle. Et c'est pas anodin, la direction générale de Pôle emploi à l'époque décide que ces conseillers et ces conseillères sont des conseillères accompagnement, parce qu'il y a plusieurs dominantes dans les conseillers et les conseillères. Il y a l'indemnisation, les conseillers conseillères entreprises, donc ceux qui s'occupent de collecter les offres et de faire le rapprochement, et accompagnement. Et ce qu'a voulu faire la direction générale avec ce signal-là, c'était de dire non, mais en fait, ce sont des personnes qui contribuent à l'accompagnement avec un brouillage entre accompagnement et contrôle qui prend un virage très fort à ce moment-là et qu'on retrouve aujourd'hui avec encore un niveau supplémentaire avec la loi pour le plein emploi, la création de fin de travail, la réforme du RSA. Où là, on a franchi encore un cap supplémentaire. Alors, ce n'est pas dans l'ouvrage parce que ce n'est pas la période qu'on traite dans l'ouvrage, mais cette dynamique qu'on a identifiée dans l'ouvrage, on n'est pas les seuls, hein, cette dynamique qu'on essaye de montrer dans l'ouvrage sur ce brouillage entre accompagnement et contrôle, elle s'est poursuivie ensuite.
Alors, ce brouillage, il est dangereux. Et ça, vous l'avez bien décrit, parce que tous les chômeurs devraient lire votre livre, mais c'est surtout tous les salariés. Parce que vous démontrez bien que ce qu'on fait au chômage, c'est on le fait aux salariés, en fait. Ce brouillage, il est dangereux sur le plan idéologique et sur le plan économique. Pourquoi ? Claire, parce que... Allez-y, Claire.
Oui, donc en fait, ce qu'on essaye de montrer, et ça prend la suite de ce qu'a expliqué Luc sur l'histoire des politiques d'emploi, c'est que depuis les années 80, mais là aussi ça s'accentue, un traitement du chômage qui est un traitement individualisé et culpabilisateur. L'idée, voilà. C'est de dire, si vous êtes au chômage, il y a plusieurs manières de le dire, mais... C'est de votre faute et surtout, c'est à vous d'en sortir.
C'est bien la peine d'aller à Pôle emploi.
Alors, Pôle emploi, et c'est la manière dont ceux et celles qui conçoivent ces politiques, finalement, conçoivent le rôle de Pôle emploi, c'est que Pôle emploi est censé être une institution point d'appui du retour à l'emploi. Parce que, enfin... Il faut écouter leur discours pour aussi le déconstruire. Mais leur discours sur le contrôle, c'est un discours de redynamisation, comme je le disais tout à l'heure, entre guillemets. Et donc, il y a bien l'idée c'est par le comportement individuel qu'on peut... les choix individuels, le comportement individuel qu'on doit se sortir de cette situation, quitte à transiger sur l'emploi recherché, par exemple. C'est-à-dire... initialement, vous vouliez un temps plein, on va vous enjoindre d'aller plutôt chercher un temps partiel. Vous aviez des exigences en termes de rémunération, on va vous expliquer que bon, c'est quand même peut-être...
un peu exagéré,
voilà. Même beaucoup. Ou en tout cas que la période n'est pas favorable à ça. Et donc, il va y avoir, et là où on a une articulation avec les politiques de contrôle, c'est que quand les personnes sont contrôlées, ce qui est contrôlé, c'est qu'est-ce qu'elles ont fait pour leur, là encore entre guillemets, recherche active d'emploi. Ce contrôle de la recherche d'emploi, ça va être un contrôle des actions entreprises en matière de retour à l'emploi, mais avec un certain nombre en plus, j'ai envie de dire, de biais sur ce qu'est la recherche d'emploi et ce qui marche finalement quand on est en recherche d'emploi.
Bien. Claire, nous allons faire une pause et nous allons revenir très précisément sur la façon dont le langage et la hiérarchie de Pôle emploi, France Travail, mais actuellement, puisque c'est le terme que Marc Ferracci, c'est le nouveau nom institué par l'économiste Marc Ferracci, arrive à faire obtenir des agents qui fliquent les chômeurs pour leur bien. J'ai tout bon ?
Oui, alors... ce qui est
on va faire une pause et on va revenir là-dessus.
Bipède, volupteur de lyre, époux châtré de polymnie, férolet de lune à confire, grand-duc bouillon des librairies, maroufle, appendre à l'hexamètre, voyou décliné chez les Grecs, albatros à chaîne et à guêtre, cigale qui claque du bec, poète, au papier, poète, au papier.
j'ai bu du Waterman, et j'ai bouffé l'itré, et je repousse du goulot de la syntaxe, à faire se pâmer les précieuses à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3, 6, 9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne, et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore cul quick, sédentaire des longitudes, phosphaté des dieux, chair à flic, colis en souffrance à la veine, remords de la Légion d'honneur, tumeur de la fonction urbaine, Don Quichotte du crève-cœur, poète, au papier, poète, papier, le dictionnaire et le porto à découvert, je débourre des mots à longueur de pelure, j'ai des idées au frais de côté pour l'hiver, à rimer le beefsteak avec les engelures. Cependant que Zara enfourche le bidet à l'auberge d'Ada, la crotte est littéraire, le verre est libre enfin, et la rime en congé, on va pouvoir poétiser le prolétaire. Spécialiste de la mistoufle, émigrant qui pisse au visa, aventurier de la pantoufle, sous la table du nirvana, meurt de faim qui plane à la une, écrivain public décroquant, anonyme qui s'en tribune, à la barbe des continents, poète, bois papier, poète, documenti, littérature obscène, inventée à la nuit. Onanisme torché au papier de Hollande, il y a partout à l'hémistiche mes amis, et que m'importe alors Jean Genet que tu bandes. La poétique libérée, c'est du bidon, poète, prends ton verre et fous-lui une trempe, mets-lui les fers aux pieds et la rime au balcon, et ta muse sera sapée comme une vente. Citoyen qui sent de la tête, papa gâteau de l'alphabet, maquereau de la clarinette, graine qui pousse des gibets, châssis rouillé sous les démences, corridor pourri de l'ennui, hygiéniste de la romance, rédempteur falot des lundis, poète, voix papier, poète, sale type. Que l'image soit rogue et l'épithète au poil, la césure sournoise certes, mais correcte, tu peux vêtir ta muse ou la laisser à poil. L'important est ce que ton ventre lui injecte. Ces seins oblitérés par ton verbe arlequin gonfleront goulûment la voile aux devantures, solidement gainée ta lyrique putain, tu pourras la sortir dans la littérature. Ventre affamé qui tend l'oreille, maraudeur aux bras déployés, pollen au rabais pour abeille, tête de mort rasée de frais, rampant de service aux étoiles, poitre qui fait dans le quatrain, masturbé qui vide sa voile à la devanture du coin. Poète, circulez, poète, circulez, poète, circulez.
Chers auditeurs de La Rage de Dents, nous sommes dans la deuxième partie de notre émission autour du livre Chômeurs, vos papiers avec Luc et Claire. Claire, je voudrais qu'on revienne sur le langage employé par Pôle emploi, France Travail, surtout instillé par la hiérarchie pour faire accepter le contrôle, le flicage des chômeurs aux employés, et pourquoi, quelque part, le contrôle se fait à distance. il y a une mise à distance, parce que ça se fait principalement par téléphone. On n'a plus de contact avec les physiques, le moins possible. Et ça, vous le montrez très bien dans votre livre.
Alors, effectivement, on n'a pas expliqué comment se passait le contrôle. C'est quelque chose qu'on décrit dans le livre, mais juste pour qu'on... les auditeurs et les auditrices puissent comprendre, ce sont des agents et agentes de Pôle emploi qui sont placés sur dans des services dédiés, ce que Pôle emploi appelle des plateformes, c'est-à-dire pas dans les agences, et qui vont avoir des contacts soit écrits par mail, soit téléphoniques avec les demandeurs et les demandeuses d'emploi. Et pourquoi c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée, nous, dans notre enquête de terrain, c'est de se dire, mais pourquoi certains et certaines acceptent, en fait, d'aller travailler sur ces plateformes pour contrôler les demandeurs et demandeuses d'emploi. Et on a pu être, je pense, assez surpris et surprise de recueillir dans les propos des contrôleurs et des contrôleuses, des discours finalement qui portaient beaucoup sur l'accompagnement et sur la volonté de venir en aide aux demandeurs d'emploi. Alors, tout en disant « faut appeler un chat, on est un service de contrôle », mais des personnes qui se sentaient investies par une mission d'accompagnement, ce qui faisait écho au discours promu par la direction générale, qui était de dire c'est un outil de remobilisation ou de redynamisation, c'est pas d'abord un outil de contrôle. Mais donc il faut quand même voir que ce qui permet finalement ce discours et de comprendre ce glissement, c'est le brouillage dont on parlait entre accompagnement et contrôle, puisque la direction générale est même allée jusqu'à dire que le contrôle était un droit du demandeur d'emploi, au sens où, pour elle et eux, il y avait cette idée que, finalement, si le contrôle était l'occasion de remettre la pied à l'étrier, pour le dire un peu familièrement, de mettre un coup de pied aux fesses, alors, finalement... Il remplissait sa mission. Il y a bien derrière la volonté de dire que personne ne doit être inscrit à Pôle emploi pour ne rien faire. Avec voilà, cette idée que si on est inscrit à Pôle emploi, on est en recherche active d'emploi, même si au quotidien, dans le quotidien des personnes qui contrôlent, La réalité est toujours beaucoup plus complexe que ça. Mais le discours de l'institution, c'est bien un discours de ce qu'on appelle l'activation, c'est-à-dire le fait de mettre les gens au travail et de les mettre au travail, j'ai envie de dire, quel qu'en soit le prix au regard des emplois occupés ensuite, et aussi au regard des contraintes ou des situations effectives des demandeurs d'emploi. Je pense à leur situation familiale, à leur situation de santé. Voilà.
Parce qu'il y a des chômeurs qui sont éloignés de l'emploi parce qu'ils sont en situation de pas l'être. Ils sont en situation de handicap, de maladie de longue durée. Et malgré ça, on les contrôle et on les oblige à prendre. Parce que quelque part, qu'ils soient indemnisés ou pas, le contrôle s'applique. Oui. Et ça, on oublie de le dire à l'ensemble des salariés. Le contrôle, c'est une... Et ça, vous le montrez bien dans le livre, c'est vraiment le cœur du système. Et autour du contrôle se joue toute la morale de cette institution. Comme si c'était la société qui était en danger. Si on ne contrôlait pas correctement les chômeurs, alors que c'est plutôt eux qui mettent en danger la société par leurs pratiques autour des chômeurs.
Oui, c'est le discours, c'est tout le discours qu'on entend autour des assistés, je mets ça entre guillemets, oui. Et avec un discours qui en plus donne à croire que ça serait une demande populaire finalement. Il y a beaucoup en ce moment ce discours pour dire non, mais les Françaises et les Français demandent enfin demandent à ce qu'il y ait du contrôle, sont critiques parce que on gagnerait plus, voilà, si on fait du Retailleau là dernièrement,
oui.
On gagnerait plus
1,7%.
Voilà. On gagnerait plus avec les allocations qu'en travaillant. Et donc, ça s'inscrit dans tout ce paysage idéologique-là, en fait, le contrôle.
Mais l'histoire du contrôle et la façon dont il est exécuté, ce sont les deux premiers chapitres de votre livre. Le troisième chapitre, je ne voudrais pas qu'on l'aborde parce que je veux donner envie aux personnes de lire votre livre. Je voudrais qu'on revienne sur vraiment tout ce qui est méthodologie. Comment vous avez réussi déjà à avoir des entretiens ? Parce que l'institution, on le disait en aparté avant de rentrer dans l'émission, il est plus difficile de travailler sur France Travail, ce que vous faites courageusement tous les deux, que de travailler sur la police, par exemple. Ça, vous me l'avez confié. Ça m'a bien fait rire. Et je pense que ça va faire rire beaucoup de nos auditeurs. L'institution verrouille tout. Et elle ne veut pas communiquer parce qu'elle ne veut pas avoir des critiques. Et ça, vous le dites bien. Donc, déjà, comment vous avez réussi miraculeusement à approcher des interlocuteurs qui vous disent un chat et un chat, c'est du contrôle ?
Alors, c'est une bonne question, effectivement. Alors, déjà, juste avant d'en venir un peu sur la cuisine méthodologique qui est effectivement importante et qui demeure toujours un enjeu puisqu'on continue à travailler sur ces sujets.
Oui.
Déjà, il faut dire que la raison au départ qui nous a conduit à nous lancer dans cette recherche sur le contrôle, c'est pas forcément une réponse directe au débat public. Donc on a commencé à peu près en 2020-2021, fin 2020, période un peu Covid quoi. Et en gros, on a commencé parce que on avait tous travaillé sur le chômage d'une façon ou d'une autre, et que en fait on s'est rendu compte que c'était un peu un angle mort la question du contrôle. Il y a plein de travaux très intéressants sur l'accompagnement, l'indemnisation, l'histoire, etc. Mais très peu qui traitent frontalement le contrôle, et on s'est dit que c'était un peu un angle mort et que c'était bien dommage. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est un peu une des pierres angulaires des politiques de l'emploi, notamment aujourd'hui. Et donc, c'est un peu ça qui nous a conduit à nous dire, bah, en fait, c'est dommage parce qu'il y a plein de discours dans le débat public là-dessus. Il faut contrôler parce qu'il y a des emplois non pourvus. Il faut contrôler parce que l'assurance chômage est déficitaire. Il faut contrôler parce que ce serait... parce qu'il faut mettre tout le monde au travail. Enfin bref, il y a toujours plein de bonnes raisons, entre guillemets, de contrôler. Mais en fait, on n'en savait pas grand-chose de ce que c'était concrètement que le contrôle. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans au départ et pas... c'était pas une réponse à chaud au débat public. C'était vraiment faire une enquête de sciences sociales... sérieuse, documentée, et effectivement ça n'a pas été facile. Alors la raison pour laquelle ça n'a pas été facile, c'est que on n'a jamais eu d'accès via l'institution, accès qu'on a pourtant sollicité à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'on a écrit à la direction générale pour accéder à des contrôleurs, contrôleuses, etc. C'est pas qu'on a eu des noms, c'est que classiquement dans l'administration on n'a eu pas de réponse. Voilà, c'est un grand classique. Ce qui vaut un nom. En gros, et ce qui s'est passé, c'est que donc les contrôleurs et contrôleuses, on les a pour la plupart contactés via LinkedIn, en les ajoutant et en leur faisant un petit message. Un certain nombre d'entre eux, alors j'ai pas fait le taux de réponse, mais un certain nombre d'entre eux n'ont pas répondu. Certains ont dit non, et une soixantaine d'entre eux, puisque c'est le nombre d'entretiens qu'on a réussi à faire, ont répondu favorablement. La plupart de ces entretiens se sont faits en visio du fait de la dispersion géographique. Quelques-uns en présentiel, mais rarement. Et donc, des entretiens souvent assez nourris, assez longs, qui nous ont permis de détailler, de comprendre les raisons qui les ont conduits aussi au contrôle. Et souvent, ces raisons, j'en dis juste un micro-mot, mais ne sont pas exactement celles qu'on pourrait penser. C'est-à-dire que ne viennent pas au contrôle... Enfin, les gens qui viennent au contrôle, c'est rarement des passionnés... de la sécurité ou du flicage.
Ou de l'enquête.
C'est plutôt en fait c'est le terme d'un représentant syndical qui dit c'est plutôt des conseillers fatigués que des flics dans l'âme. C'est ça en fait, c'est des gens qui souvent veulent échapper aux difficultés du travail de guichet en agence, des tensions avec les demandeurs d'emploi, tensions qui sont créées par la réduction des droits des chômeurs, etc. Qui fait que les agents physiques sont en première ligne dans les agences. Donc souvent on va sur ces plateformes où on n'est pas en contact avec les demandeurs d'emploi, aussi pour échapper à ce travail de guichet. Et c'est aussi un peu pour ça que la petite musique du contrôle comme accompagnement fonctionne parce qu'elle permet aussi...
De déculpabiliser.
Alors, de déculpabiliser, mais elle permet aussi à ses agents de mettre un peu en cohérence leur trajectoire. C'est-à-dire, c'était souvent des gens qui accompagnaient, qui viennent au contrôle, donc ils ont l'impression d'accompagner un peu différemment. Donc, l'idée de dire le contrôle, c'est aussi de l'accompagnement, ça leur convient aussi d'une certaine façon, puisque ça fait écho à ce qu'ils faisaient avant. Et donc, voilà, donc on a fait ces entretiens. Voilà. Malheureusement, c'est notre grand drame, si je puis dire, c'est qu'on n'a jamais pu accéder à ces plateformes et observer le travail de contrôle, ce qui pour des sociologues du travail et de l'emploi est toujours
frustrant,
puisque nous on a pas mal travaillé aussi par ailleurs par observation, et que donc c'est un peu problématique. Donc on se base sur ce que les gens nous disent de leur travail. Évidemment, on a croisé, puisqu'on a aussi rencontré par ailleurs des collectifs de chômeurs, beaucoup moins des demandeurs d'emploi, hein, puisque le livre est vraiment sur les contrôleurs et moins sur les contrôlés. Mais voilà comment on a travaillé, un petit peu aussi sur des sources d'archives. Mais effectivement, la plupart de ces documents qu'on a récoltés ou de ces contacts qu'on a eus, c'était pas par l'institution elle-même.
Bon, on l'a compris, l'institution est opaque.
Oui.
Je vais encore me faire des amis. Bien, ça me réconforte. Alors, Claire, les associations de défense des chômeurs, comment ils ont reçu votre livre? Est-ce que vous le savez? Parce que moi, quand j'en ai parlé avec eux, ils ont adoré.
Ça nous fait toujours plaisir.
Parce que vous en parlez dans votre ouvrage. Vous en avez... Il y en a un qui explique comment faire pour faire des recours, qui explique comment procéder a posteriori après un contrôle et radiation. Parce qu'on ne dit pas à quel point l'une des conséquences du contrôle, c'est la radiation.
Oui. Alors, effectivement, nous, on a échangé tout au long de nos travaux, mais de ce travail-là aussi, avec des différents collectifs de défense. Des privés d'emploi. On s'est notamment appuyé sur l'un d'entre eux aussi pour avoir quand même des mettre en regard des témoignages de personnes contrôlées. Parce que même si notre entrée, c'était une entrée par les agents qui contrôlent, ça nous semblait important. Et je pense que ce que ça permet de mettre en lumière, c'est de voir à quel point... Les personnes inscrites à Pôle emploi, d'une part, ne comprennent pas ce qui leur arrive.
Tout à fait. C'est un camion qui vous tombe sur la tête.
Et donc, sont constamment perdues, mais elles ont de bonnes raisons de l'être. Hein. Sont constamment perdues entre les contacts avec les conseillers d'indemnisation, accompagnement, le contrôle. Et donc, ne savent pas comment elles doivent réagir, et d'autre part, la crainte, et c'est lié, évidemment, les deux éléments sont liés, mais la crainte que suscite l'institution, et donc finalement, on voit des demandeurs d'emploi qui peuvent se mettre en difficulté parce qu'ils ne répondent pas parfois au contrôle, ayant peur de dire une bêtise ou de dire quelque chose qui va se retourner contre elles et eux, finalement, ils ne répondent pas. Ils répondent pas ou ils répondent que très partiellement. Et donc, finalement, ils se retrouvent en difficulté. Et je pense que c'était important pour nous aussi de mettre en lumière, même si ce n'est pas le cœur de l'ouvrage, mais la relation de défiance, à minima, je suis gentille, entre l'institution et ses usagers et ses usagères, qui sont aussi à rapprocher de son caractère très opaque. C'est-à-dire que... finalement, on a du mal à se dire que Pôle emploi, c'est une institution au service des demandeurs et demandeuses d'emploi. Enfin, je pense que si on disait ça, ça ferait rire beaucoup de monde, quoi.
Oui, à commencer par moi. Et je sais pourquoi. Donc, les ayant fréquentés régulièrement, je dirais pas ça d'eux. Ils fonctionnent par coercition, vous le montrez bien, par la crainte, et par l'opacité. Et votre livre, votre ouvrage est édifiant là-dessus. Pour ceux qui n'auraient jamais été au chômage et qui ne comprendraient pas l'attitude de leur entourage au chômage, c'est un livre qu'il faut lire. Et il faut comprendre que c'est l'attitude de France Travail, puisque c'est le nom actuel de cette institution, elle est faite pour faire peur. Et elle fait peur. Et parce qu'elle fait peur, quelque part, elle terrorise l'ensemble des salariés. Il n'y a pas que ceux qui sont privés d'emploi. Et ça, vous le montrez bien dans votre ouvrage, Claire. Ça terrorise.
Et je pense que c'est important de mettre en regard, parce que le contrôle, à la fois, c'est une pierre angulaire, comme on le disait tout à l'heure, mais c'est aussi un élément dans un ensemble plus large.
Voilà.
Et je pense particulièrement aux réformes d'assurance chômage, réformes des droits à indemnisation qui se sont multipliées ces dernières années, mais qui ont eu en commun de réduire
les droits des
privés d'emploi.
Un sur deux n'est pas indemnisé.
Voilà, plus d'un sur deux. Maintenant, je crois qu'on est à 40% qui n'est pas indemnisé.
Ça ne vous étonne pas d'un président de la République, M. Macron, qui a été inspecteur des finances, et son supérieur hiérarchique était un certain monsieur
Basser.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il faisait, monsieur Basser? Il était
directeur de Pôle emploi.
Voilà. La boucle est bouclée. Et... Merci, Luc.
Et donc, voilà. Cette situation, finalement, du contrôle et de la réduction des droits, ce sont des éléments qui vont ensemble, sont imbriqués, pour rendre la situation de chômage, de privation d'emploi, absolument repoussoire. Enfin, et donc, évidemment, ça a des effets ensuite sur les salariés en poste, d'une part, et d'autre part, sur les demandeurs d'emploi qui veulent, personnes inscrites à France Travail, qui veulent sortir de cette situation. Et autre élément qu'il faut, enfin, auquel on essaie d'être attentif et attentive, c'est la question du non-recours au droit.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est une institution qui est, pour le dire comme ça, particulièrement inconfortable. Ce qu'on aimerait voir dans les prochains mois, c'est essayer de voir comment les différentes réformes ont, c'est une hypothèse, eu pour effet d'augmenter le non-recours au droit, qui est déjà très important, hein, puisqu'on est au-delà de 30%, que ce soit pour le RSA ou l'indemnisation chômage. Et c'est vrai que ce niveau de coercition
tend à augmenter
et pourrait inciter en quelque sorte encore davantage à ne pas recourir à ces droits pour ne pas aussi faire l'objet de tous ces contrôles.
Alors dans le service public, on a calculé ce non-recours aux droits. Les associations l'ont fait et la défenseuse des droits, elle l'avait calculé à hauteur de 50%. Tout service public confondu. Donc pour France Travail, on est au-delà.
En tout cas sur les chiffres, parce que après le non-recours c'est un continuum, mais sur les chiffres, sur les allocations à proprement parler, que ce soit RSA ou ARE, dans les années 2000, début d'année 2020, on était au-delà de 30% sur une allocation, enfin, donc je veux dire, c'est pas la même chose aussi de se priver d'une ressource monétaire qu'en plus dans des périodes de privation d'emploi. Enfin, je veux dire, sur certains services publics, vous pouvez vous dire que vous pouvez le contourner, mais là, c'est un chiffre qui est quand même éloquent.
Ouais. Luc ?
Je voudrais juste dire une chose, parce qu'effectivement... La tonalité de la discussion et du livre aussi est critique, par définition.
Bah ouais.
Non, mais c'est tout à fait bien. Mais je voulais juste préciser une chose, c'est que, et le contenu du livre en témoigne, hein, c'est que l'objectif de faire ce livre, c'est pas du tout une charge contre les agents de Pôle emploi, c'est pas une volonté de dire « regardez comme ils sont méchants », etc. Critique, il y a, mais c'est plutôt une critique de l'institution et des politiques publiques et des responsables politiques qui portent aussi ces tournants coercitifs des politiques de l'emploi, cette vision, qui propage cette vision du chômeur qui se repose un peu sur ses lauriers, etc. Donc c'est plutôt de ça dont on est critique. Et dans le livre, on explique aussi comment les agents se retrouvent en fait à devoir faire des choses qu'ils n'ont pas vraiment envie de faire, Un sale boulot. Certains se rendent compte qu'il y a quand même eu un petit peu de tromperie sur la marchandise dans ce qu'on leur a vendu et dans ce qu'ils font concrètement, notamment à partir de l'année 2022 où il y a une augmentation très forte sur demande de Emmanuel Macron et du gouvernement, une augmentation très forte du nombre de contrôles à réaliser à effectif constant, ce qui veut dire que les agents sont très pressurisés et vont devoir contrôler de plus en plus de monde, y compris des gens qu'on ne contrôle pas auparavant, des gens qui ont des problèmes de santé, des gens qui sont proches de la retraite, ce qu'ils ne faisaient pas avant précisément parce qu'ils considéraient que c'était pas correct. Pour atteindre les objectifs, il va falloir le faire. Donc tout ça pour dire que les agents sont aussi très pressurisés, transbahutés d'une réforme à l'autre. Ils ont du mal parfois à suivre, parce que ça change en fait tout le temps. Et un certain nombre d'entre eux viennent là, on l'a dit, un peu par défaut, pour échapper au guichet. On leur demande de faire des choses avec lesquelles certains ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux, alors on n'a pas quantifié, mais quittent même parfois le contrôle parce que ça devient trop compliqué. On leur demande de faire des choses avec lesquelles ils sont pas d'accord. Donc, tout ça pour dire que il y a une critique forte dans l'ouvrage, mais qui est plutôt une critique des institutions et de l'orientation des politiques publiques en matière de traitement du chômage, beaucoup plus qu'une critique des agents eux-mêmes.
Ils sont dans le même bateau que les chômeurs.
Je ne sais pas si j'irais peut-être pas jusque-là, mais effectivement, en tout cas, ils partagent parfois des traits en commun, notamment parce qu'un certain nombre d'entre eux, avant de rentrer dans cette institution, étaient eux-mêmes au chômage.
Voilà.
Je voulais juste, si on a une minute, citer ce passage pour dire que ces politiques de rendre, entre guillemets, inconfortable la vie des chômeurs, c'est pas juste une lubie de sociologues, etc. Ou de gens de gauche, etc.
C'est les ultra méchants comme moi.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été pensé, qui a été écrit. D'ailleurs, donc je cite, on cite dans l'ouvrage, dans l'épilogue de l'ouvrage, un rapport de l'OCDE, donc qui est une organisation internationale très consultée et qui a impulsé pas mal de réformes en matière de politique d'emploi dans un ensemble
dont le siège est à Paris, dans le 15e.
Oui, dont le siège est à Paris. Donc c'est issu d'un document qui s'appelle Perspective de l'emploi 2006, à la page 212, si vous voulez aller vérifier. Donc on cite ça, ouvrez les guillemets, « Les réformes structurelles qui commencent par générer des coûts avant de produire des avantages peuvent se heurter à une opposition politique moindre si le poids du changement politique est supporté dans un premier temps par les chômeurs. En effet, ces derniers sont moins susceptibles que les employeurs ou les salariés en place de constituer une majorité politique capable de bloquer la réforme dans la mesure où ils sont moins nombreux et souvent moins organisés. » Voilà, c'est écrit
noir
sur blanc.
Tout est dit. Claire, un dernier mot, puisqu'il nous reste quelques minutes avant de conclure.
Peut-être, donc là, l'ouvrage, on l'a réalisé entre 2020 et 2022, mais on a poursuivi ensuite nos travaux sur le contrôle de la recherche d'emploi avec, et on poursuit encore aujourd'hui d'ailleurs, avec beaucoup de changements, notamment suite à la loi dite pour le plein emploi qui a donné lieu à la création de France Travail, à la réforme du RSA et à ce qui s'appelle décret sanction, en gros un nouveau régime de sanctions contre les demandeurs et les demandeuses d'emploi. Donc c'est pas dans l'ouvrage, mais je pense que c'est quand même important d'avoir connaissance de ce nouveau régime de sanctions, de ces nouvelles obligations qui pèsent sur les demandeurs et demandeuses d'emploi. Alors avec un renforcement, vraiment un tournant coercitif, on avait déjà tourné, mais là on tourne encore, qui est vraiment très fort et avec des obligations renforcées. Et ce qu'on voit, nous, quand on continue à interroger les contrôleurs et les contrôleuses, c'est que finalement, le brouillage accompagnement-contrôle, il va se situer à un endroit différent. C'est-à-dire que aujourd'hui, les contrôleurs contrôlent et ils ne font que ça. Il n'y a plus d'ambiguïté possible sur « Ah bon, mais est-ce qu'ils accompagnent, ils remobilisent, ils redynamisent ?»
Non, ils contrôlent.
Par contre, le brouillage, maintenant, il va directement dans l'accompagnement, au cœur même de l'accompagnement, puisque avec les obligations, on a beaucoup parlé des 15 heures d'activité obligatoire.
Tout à fait.
L'essentiel de l'accompagnement, aujourd'hui, consiste à contrôler, en fait, que les demandeurs et les demandeuses d'emploi ont bien rempli leurs obligations d'activité.
Pour bénéficier de leurs maigres prestations.
Voilà. Et donc, je pense qu'il faut, vraiment... c'est parfois un sujet qui passe, à mon sens, trop sous les radars, mais rester vraiment très vigilant et vigilante sur... sur cette évolution dans le traitement du chômage et même de la pauvreté, puisque il y a aujourd'hui une obligation d'inscription à France Travail pour des gens qui n'étaient pas hier considérés comme demandeurs d'emploi, parce que à proprement parler ils ne l'étaient pas, et donc avec cette volonté vraiment de mise au travail de personnes très éloignées de l'emploi qui se renforce.
Voilà. Merci Claire. Luc, merci. Alors, merci. Je rappelle le titre, Chômeur vos papiers, dans une maison d'édition spéciale, Raison d'agir, fondée par M. Bourdieu en 1995, dont Publico va fêter les 30 ans, dans plusieurs animations. Surveillez le site de Publico, notre librairie chérie, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Fille du Calvaire ou Oberkampf. On remercie Frédéric, sans qui il n'y aurait pas d'émission, parce que s'il n'y a pas de technicien, il n'y a pas d'émission. Merci Frédéric. Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à vous. Merci beaucoup.
La rage. La rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent j'ai dessiné en mille facettes, peinture rouge et les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver aux prophètes, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, au moins cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musée, l'orage de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, sergé des gamins, leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve, je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve, prévu de me tuer du futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Mi so comprato, so diventato un muro, ma gioca giù sciappato. So diventato un negoziam, voce veninta del corpo che canto la flor, flor dell'am, intervinter ni esperam. I lacin venuce mi, aula grec, aula franca, e canto con mi, persa ma voce e diranta del cor, esperam.
Arbo, bo, boto, cioccolato, do, dento, e, elefanto.
Estas tre facile.